Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio. Le Buzz TV.
On accueille aujourd'hui dans ce studio une journaliste polymorphe, hein, totalement passée par Bloomberg, TV5 Monde, France 24. Après une saison sur France 2 côté de Laurent Ruquier, elle est revenue dans la chaîne d'info française internationale en 2017 comme dirigeante cette fois-ci, avant d'être nommée en 2021 directrice de France 24. Bonjour Vanessa Burgraff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes la directrice de France 24. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, il y en a peut-être deux ou trois qui traînent. Hein. En fait, il faut expliquer que c'est une chaîne d'information française en continu, bah, comme FM, CNews ou LCI, sauf que celle-ci a une vocation internationale et est diffusée dans, alors je crois que c'est 180 pays, 500 millions de foyers à peu près.
Exactement.
Les chiffres.
Mais France 24, c'est une marque, c'est quatre chaînes, ce n'est pas qu'une seule chaîne.
Absolument,
je tiens à le
préciser. Qu'il y a quatre langues. Hein,
il y a quatre langues, donc il y a une chaîne en français, une chaîne en anglais, une chaîne en arabe et une chaîne en espagnol.
Absolument. Et vous avez passé 17 ans de votre vie sur cette chaîne. Les 10 premières années, il y a eu la petite parenthèse France 2 et vous êtes revenu depuis 7 ans. Finalement, c'est logique que vous soyez revenu à vos premières amours, Vanessa.
C'est logique, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, j'ai accompagné cette chaîne du premier jour de sa création, c'est-à-dire en 2006, j'y ai présenté les journaux, j'ai présenté ensuite un débat d'actualité internationale, ensuite il y a eu la petite parenthèse, comme vous le soulignez, France 2, Laurent Ruquier, et je suis revenue ensuite pour diriger la chaîne française, et aujourd'hui les quatre chaînes de France 24. Donc je suis très heureuse d'avoir accompagné cette chaîne jusqu'à aujourd'hui.
J'imagine qu'une telle partie de votre vie, 17 ans, c'est un lien très fort, non ?
J'ai un lien très,
quand même à la chaîne.
Ouais, j'ai un lien très fort avec cette chaîne, un lien surtout humain, j'ai envie de dire, parce que ce sont des journalistes que je connais depuis 17 ans, que la plupart d'ailleurs sont restés dans la chaîne. Donc j'ai grandi avec eux, ils ont grandi avec moi, et c'est une grande partie de notre vie, c'est près de 20 ans quand même, la chaîne va avoir 18 ans au mois de décembre, et donc ça crée des liens professionnels, évidemment, très fort, mais je crois que ça va bien au-delà du professionnel. Il y a des liens humains aussi extrêmement forts qui se sont noués entre nous au fil des années.
Et on va en parler évidemment de cette chaîne et notamment de sa nouvelle peau, car elle va changer de visage juste avant sa majorité. C'est parfait, ce sera après les news médias de Cécile Brelot. Cécile, on démarre tout de suite par Élise Lucet qui a défendu hier en plateau le numéro d'envoyé spécial qui était consacré à Gérard Miller.
Exactement, donc à quelques heures de la diffusion du numéro du magazine d'investigation consacré au psychanalyste visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle, la journaliste de France 2 était l'invitée de C'est à vous, l'occasion pour elle de dévoiler les coulisses de cette enquête, du recueil des témoignages à la recherche d'archives. Pour répondre cependant aux attaques épinglant le non-respect de la présomption d'innocence, Élise Lucet précise, je cite, que le rôle des médias est de donner la parole à ces femmes et d'envoyer le signal qu'on peut s'attaquer à des gens connus. Ce numéro a été suivi par plus de 2,3 millions de téléspectateurs.
Oui, ce qui est plutôt un bon chiffre. Il y a eu beaucoup de voix qui se lèvent ici et là. Alors Gérard Miller, c'est récent, mais il y a eu Benoît Jacquot, Jacques Doyon, récemment Judith Godrèche est devenue un peu l'incarnation de cette liberté de parole qui existe depuis MeToo, depuis plus de 5 ans. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'omerta, quelle qu'elle soit dans ces milieux-là, presse, cinéma, culture, est définitivement rayé de la carte.
Alors, définitivement, je ne sais pas. Je pense que le chemin est encore long. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la parole s'est libérée, que les femmes, aujourd'hui, ne se taisent plus, qu'elles ne doivent plus se taire, et que c'est le rôle, notamment, des médias, aussi, de faire des enquêtes, comme ça a été le cas, même si, évidemment, il y a toujours la présomption d'innocence, et de mettre en avant la parole de ces femmes. Je crois qu'on assiste à un véritable tournant, et c'est une bonne chose, une très, très bonne chose, parce que le silence a pesé, et a pesé durant trop longtemps et dans tous les milieux.
La contrepartie, c'est-à-dire éventuellement les dégâts collatéraux qui peuvent être des grosses accusations, puis finalement quelques mois plus tard quelqu'un qui est innocenté, ça vous dérange pas trop, c'est pas parce qu'il y en a forcément, malgré tout, qui seront...
Il faut toujours rappeler qu'il y a une présomption d'innocence, mais pour autant, les femmes doivent parler, et aujourd'hui, je pense qu'on va leur donner la parole, et que c'est aussi le rôle du service public, des médias, ça fait partie de nos missions de service public, de défendre le droit des femmes, de donner la parole aux femmes. On le fait aussi sur France 24, on a une émission qui est dédiée spécifiquement aux femmes, qui s'appelle Actuelle, qui est décliné dans les quatre langues de France 24. Et pour nous, c'est un enjeu qui est primordial. Le chemin est encore très, très long pour les femmes. Il y a les violences conjugales, mais il y a aussi la place des femmes dans la société. Il y a l'évolution aussi professionnelle des femmes. Tout n'est pas encore gagné. Une femme doit aujourd'hui encore... plus prouvé rapport à un homme,
pour évoluer,
il y a toujours le problème des salaires, on n'est pas encore à parité, donc le chemin est encore long, et les médias doivent accompagner ce chemin-là.
C'est dit. On continue ces infos avec les mots de Pascal Praud hier, lors de la conférence, la commission d'enquête, qui s'est tenue sur CNews.
Oui, à la suite d'une demande de l'ARCOM pour mieux contrôler la chaîne d'information du groupe possédé par Bolloré, une audition s'est tenue à l'Assemblée nationale hier, où Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari et Pascal Praud ont pris la parole. Ce dernier a répondu aux reproches du manque de modération en plateau. Il a répondu, je cite, « être hélas un être humain et ne peut être assez concentré ni vigilant pendant 60 heures d'antenne par mois, avant d'assurer qu'il s'en voulait à chaque erreur. »
Alors on rappelle que c'était suite à une saisine de Reporters sans frontières concernant CNews que le Conseil d'État demandait à l'ARCOM de durcir un peu le contrôle en matière de pluralisme. En gros, ne plus limiter le temps de parole simplement aux invités politiques, mais à tous les gens qui sont en plateau. Quel regard vous portez sur cette commission d'enquête et à votre avis, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou une atteinte aussi à la liberté d'expression?
Alors, d'abord, je n'ai pas à commenter la décision du Conseil d'État. En revanche, ce que je peux dire, c'est que CNews est une chaîne d'opinion, et ils le revendiquent, elle la revendique comme telle. Et c'est tout l'inverse de France 24. Nous, nous ne sommes pas une chaîne d'opinion. Nous sommes une chaîne indépendante, factuelle. Nous vérifions nos informations, nous donnons des faits. Et surtout, c'est que nous donnons la parole à tout le monde. Et ça me semble extrêmement important de donner la parole à tout le monde pour que le téléspectateur puisse se faire sa propre opinion.
Alors ça, j'ai bien compris, mais est-ce que le fait qu'une chaîne d'opinion existe dans un pays, c'est dérangeant pour vous, à partir du moment où elle est clairement identifiée ?
Pour moi, une chaîne d'information, je le répète, une chaîne d'information doit donner les voix à toutes les parties. Voilà, d'accord. On doit pouvoir entendre toutes les voix. Après, se pose en effet la question de la liberté d'expression. En effet, c'est un sujet. Voilà, je voudrais quand même dire à titre personnel que ce qui a été dit notamment sur l'avortement, sur l'IVG, absolument, que c'était la première cause de mortalité dans le monde, moi, en tant que femme, ça m'a choquée. Je peux le dire. D'autant plus qu'aujourd'hui, le droit des femmes, et notamment en matière d'avortement, est menacée encore toujours partout dans le monde. Je pense notamment aux États-Unis, mais pas que, en Europe également, en Pologne, où le droit à l'avortement a été restreint. Donc voilà, ça m'a un peu interpellée.
On termine avec le chiffre du jour, Cécile. Aujourd'hui, c'est le 7.
Oui, exactement. Pour 7 affiches qui ont été la cible d'une campagne créée sur les réseaux sociaux par la France Insoumise.
Pour les Européennes, effectivement.
Pour les Européennes, exactement. Donc, parmi eux, 3 journalistes. Pascal Praud, la famille Duhamel, dont Benjamin Duhamel, par exemple, et sa mère Nathalie Saint-Cricq. Aussi Christophe Barbier, que j'ai oublié d'évoquer.
Alain Duhamel, Patrice Duhamel, effectivement.
Ont été présentés, donc, tous comme des opposants du parti mené par Jean-Luc Mélenchon, incitant ainsi leurs sympathisants à s'inscrire sur les listes électorales des élections européennes. La journaliste du groupe France Télévisions a pu compter sur le soutien de nombreux confrères et consoeurs du groupe, parmi eux la présidente Delphine Ernotte, qui a indiqué que les attaques contre les journalistes qui exercent librement leur métier sont inacceptables, avant d'informer que France Télévisions avait saisi la justice.
Vous condamnez, j'imagine,
évidemment,
Vanessa.
Et ça, je soutiens Nathalie Saint-Cricq, Christophe Barbier, la famille Duhamel.
Et Pascal Praud aussi, qui était la cible.
Pascal Praud. Je les soutiens. Vous savez, on a des journalistes, nous, aux quatre coins du monde, qui couvrent des conflits. Et aujourd'hui, les journalistes sont la cible de conflits, et notamment dans des régimes autoritaires. Ce qui me choque, c'est qu'on est en France, on est dans un régime démocratique, que nous avons des valeurs républicaines et que de cibler des journalistes est contraire à la démocratie et contraire aux valeurs républicaine.
Surtout venant d'un parti politique.
Et surtout venant d'un parti politique. Voilà, donc ça interroge.
Vous, ça vous est déjà arrivé d'être la victime, d'être une cible comme ça, notamment quand vous avez été très exposé sur votre année à On n'est pas couché, sur les réseaux, autre chose,
oui,
ça vous est arrivé de...
j'ai
de
été
ça,
la ouais. cible de, ouais. Des réseaux sociaux, de, et ça a été, je l'ai souvent dit et je le redis, ça a été extrêmement, ouais. extrêmement violent.
Et des ouais. politiques aussi ?
Des politiques, quand j'ai eu, il m'arrivait d'avoir des altercations, il m'arrivait, oui, d'avoir après une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux.
De politiques ou de militants ou de, c'était des anonymes souvent
De militants.
De militants, oui,
aussi,
oui d'accord.
De militants.
Ouais. Du parti de politique c'est, que vous c'est avez reçu.
Oui, et c'est extrêmement violent.
Oui, c'est certain, les réseaux sociaux. C'est terminé pour aujourd'hui ?
C'est terminé pour aujourd'hui.
Il y aura d'autres news, évidemment, dès lundi. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV, nous sommes avec Vanessa Burgraff. Vanessa, vous êtes la directrice de France 24, la chaîne d'information en continu internationale, créée il y a un peu plus de 17 ans en France, une chaîne qui diffuse ses programmes dans plus de 180 pays, en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Avant qu'on évoque ce nouveau visage de la chaîne, hein, cette peau neuve que vous faites, on voit déjà ici les images et qui sera en place dès lundi, j'aimerais que vous m'expliquiez au fond quelle est la véritable vocation, pour ceux qui ne le savent pas, de France 24. Est-ce que c'est donner les infos internationales, comme toute chaîne d'infos le fait, ou est-ce que c'est aussi... porter le message, un message et des messages de la France à travers le monde.
Alors, d'abord,
ou les deux, hein, ça peut être
oui,
les deux.
Oui, alors, porter le message de la France à travers le monde, je voudrais quand même dire que nous ne sommes pas une chaîne gouvernementale.
Absolument.
Nous sommes,
vous
non,
êtes
mais c'est très
public,
important, une chaîne de service public avec des missions de service public, c'est-à-dire de lutte pour la liberté, pour les valeurs démocratiques, la défense des minorités, on a parlé des femmes.
Je ne parlais pas forcément de message politique, je parlais de message, ça peut être aussi culturel, oui, mais quand, patrimonial.
Oui, mais là, il pourrait y avoir une petite confusion, donc je préfère remettre les choses à plat.
Le message, l'image de la France, si vous voulez, globalement.
On traite de l'actualité internationale, on donne la parole à toutes les opinions, mais surtout, on est une chaîne de décryptage. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important de dire, c'est de donner des clés de compréhension à nos téléspectateurs pour comprendre aujourd'hui les grands bouleversements de ce monde, parce qu'on est un monde qui est en pleine mutation, qui est de plus en plus polarisé, on le voit notamment avec la guerre en Ukraine. On est dans un monde où il y a une guerre informationnelle qui est extrêmement puissante. Mmh. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de donner des clés de compréhension à nos téléspectateurs, c'est-à-dire d'avoir des chroniqueurs en plateau qui viennent expliquer les enjeux d'un conflit, d'avoir du reportage, du grand reportage sur nos antennes, de faire appel à nos réseaux de correspondants à travers le monde. On a quand même 200 correspondants à travers le monde. Et c'est donner ces clés de compréhension. C'est de lutter aussi contre la désinformation. C'est ça aussi l'une de nos missions. Parce que tous les jours, nous sommes victimes de fake news. Très récemment encore, on a été victime d'une deepfake parce que les révolutions technologiques apportent des choses positives, mais alimentent aussi parfois la désinformation. Il y a un journal de France 24 avec l'un de nos présentateurs où on voit notre présentateur, dans le cadre de notre journal, dire que Emmanuel Macron a annulé une visite en Ukraine parce qu'il il pourrait être victime d'une tentative d'attentat. Mmh. Et en fait, il y a eu utilisation de l'intelligence artificielle et le message initial en fait, du journaliste a été détourné, cette fausse information a circulé. Et on est victime très très souvent de désinformation et de propagande, et notamment de propagande russe. Et donc l'une de nos missions, c'est de lutter contre la désinformation. Alors, il faut savoir qu'on est quand même dans un contexte géopolitique et international qui est aujourd'hui extrêmement compliqué, extrêmement menaçant, et qu'il faut expliquer ça à nos téléspectateurs.
Absolument. Alors, vous n'êtes pas une chaîne gouvernementale, mais elle a été créée en 2006, la chaîne, sous l'impulsion de Jacques Chirac, qui souhaitait ça, puis ensuite réorganisée en 2008 par Nicolas Sarkozy dans France Média Monde, qui était l'audiovisuel extérieur de la France à l'époque, avec TV5 Monde et RFI, notamment, dont vous faites partie. Est-ce que c'est une chaîne qui a, au final, toujours dépendu d'une forte volonté politique qu'elle soit créée pour que la France puisse avoir son réseau d'information et concurrencer, pourquoi pas, CNN International, BBC World, Al Jazeera.
Il y avait une volonté d'avoir une chaîne internationale qui soit vue à l'international, comme Deutsche Welle a sa chaîne internationale en Allemagne, comme BBC a une chaîne internationale. Donc aujourd'hui, France 24 existe, mais une fois encore, c'est pas une chaîne qui porte le message du du gouvernement. C'est une chaîne de service public et je fais vraiment le distinguo parce que très souvent et notamment à l'international, les gens ne comprennent pas très bien la différence entre chaîne de service public avec les missions de service public qui sont les nôtres et une chaîne d'État. Nous ne sommes pas une chaîne d'État, même s'il y a une volonté au départ des politiques de créer une chaîne internationale. Et tous les grands pays de ce monde ont tous une chaîne internationale.
Absolument.
Et c'était normal que la France en ait une également. Alors, et qu'il soit libre et indépendante.
Pour parler, alors, que dès lundi, France 24 fait peau neuve, c'est ce qu'on se disait avec un
6h du matin, c'est ça, ça
dès 6h du matin, avec un nouvel habillage.
Sur le pont.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va changer la semaine prochaine? Non, d'abord en termes de contenu aussi.
Alors d'abord en termes de contenu, c'est plus de direct. Plus de direct, ça veut dire plus de tranches d'informations. Mais plus de direct, ça ne veut pas dire aussi aller plus vite. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai bien vu l'évolution de notre métier ces 5 dernières années. Il y a 5 ans ou même il y a 10 ans, l'idée c'était d'aller très très vite. Il fallait être les premiers pour sortir l'info. Là au contraire, c'est de prendre notre temps. Prendre le temps de décrypter 3 ou 4 grandes actualités de la journée dans ces tranches d'informations, c'est-à-dire de consacrer par exemple 8 minutes ou 10 minutes au conflit israélo-palestinien sous différents angles, en entendant différentes voix, traiter dans la tranche d'après, consacrer une dizaine de minutes au conflit en Ukraine. Donc voilà, ça. C'est plus de direct, c'est aussi plus de proximité avec nos téléspectateurs. Plus de proximité, ça veut dire par exemple pour la chaîne qui émet en français et dont les nombreux téléspectateurs se trouvent au Maghreb, mais aussi en Afrique francophone, c'est proposer un journal de l'Afrique le week-end. Pour l'instant, on a un journal de l'Afrique du lundi au vendredi. C'est proposer un journal de l'Afrique le samedi et le dimanche et qui soit un peu moins porté sur l'actualité africaine, l'actualité politique africaine, mais qui soit plus proche des Africains, montrer une Afrique un peu plus positive, parce qu'on parle toujours de l'Afrique des crises, et ce qui nous remonte aussi de nos téléspectateurs africains, c'est on en a assez toujours qu'on parle de l'Afrique des crises, des crises politiques, etc. Mais d'avoir parlé de l'Afrique positive, de ces hommes et ces femmes qui réussissent, de parler d'humour, de parler de culture, de parler de santé. Par exemple, pour la chaîne arabophone, on va renforcer nos grilles le week-end. Pourquoi ? Parce que dans une partie du monde arabe, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Et le dimanche est l'équivalent de notre lundi en Europe. Donc renforcer la grille arabophone le week-end et être donc plus proche de nos téléspectateurs. Plus de proximité. Et enfin, c'est plus de fluidité. Aujourd'hui, on avait une antenne, à mon sens, qui était un peu trop compartimentée. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté les journaux et puis ensuite des magazines qui surgissaient un peu ex nihilo. Là, plus homogène. L'idée, c'est qu'il y ait un présentateur, un anchorman ou encore woman, qui soit le fil rouge d'une tranche de 2 heures ou de 3 heures, et que dans cette tranche, on ait évidemment de l'actualité chaude, mais de l'actualité aussi de décryptage, mais aussi des magazines qui sont lancés par les présentateurs. Voilà, d'accord. Plus de fluidité.
Est-ce que le vrai enjeu, c'est aussi aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est justement ce numérique et l'info à 360 entre le broadcast, enfin, on va dire le linéaire, et le digital ?
Alors c'est fondamental, ça fait partie aussi de la stratégie, parce qu'on réforme notre grille, mais tous les contenus de cette grille vont être déclinés sur nos environnements numériques, à la fois sur notre site web, sur nos réseaux sociaux. Et le fait, si vous voulez, d'avoir des tranches qui sont plus incarnées, avec des rendez-vous qui sont mieux définis, va permettre aussi de les valoriser sur tous nos environnements numériques. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, la proximité.
Ouais,
parce que la proximité, c'est pas aussi être proche en termes de contenu de nos téléspectateurs, mais c'est aussi le fait que nos téléspectateurs puissent nous suivre, non pas uniquement sur le support télé, mais puissent nous suivre
sur
le support digital.
C'est aussi ça. Info qui cartonne
sur le digital. C'est aussi ça, la proximité.
Absolument.
Donc on va monter en puissance sur le numérique.
Vous avez pu nous dessiner les nuances entre, par exemple, France 24 et d'autres chaînes d'info. Je pense à BFM, CNews, SCI ou même France Info, dont on vient de parler. Est-ce que vous suivez, par exemple, cette guerre d'audience qui peut se jouer entre ces chaînes-là, et qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors,
on
n'est pas du tout sur le même terrain. Ce sont des chaînes franco-françaises qui traitent aussi un peu d'actualité internationale, mais qui traitent surtout de l'actualité nationale. Donc non, je regarde je suis journaliste, je suis patronne de chaîne, donc oui, je regarde un peu leurs audiences, parce que ça dit aussi quelque chose un peu du monde médiatique et des attentes aussi des téléspectateurs.
Alors, qu'est-ce que ça dit, là, par exemple?
Ben, ça dit par exemple qu'aujourd'hui qu'il y a que les chaînes d'opinion montent, ça dit peut-être aussi
que CNews est tout proche de BFM, donc
les chaînes d'opinion montent que,
et qu'elle sait, il y a pris un virage international
et qu'un virage
vous, hein.
a pris ouais, ouais. Un, exactement avec un virage international et, sujets, et que là aussi les téléspectateurs sont en demande aussi de l'international. Oui, de toute façon, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe en France si on n'a pas une vision de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a une interaction qui est extrêmement, extrêmement forte. LCI a pris le virage à l'international, BFM est sur un créneau très franco-français, et CNews est une chaîne aujourd'hui d'opinion, mais qui est aussi, et on ne peut pas le nier, qui est aussi sollicitée par les téléspectateurs.
Alors l'an dernier, vous aviez d'essayer de cesser toute collaboration et que la journaliste Joëlle Marron, qui était une journaliste arabophobe, oui, travaillait au Liban, qui avait été accusée d'avoir publié des messages antisémites sur les réseaux sociaux, des messages qui avaient été exhumés, et vous avez même déposé plainte contre elle. 3 autres personnes ont été suspendues à titre provisoire, ont eu un rappel à l'ordre. Comment on fait, Vanessa, pour gérer ces problèmes au sein d'une chaîne? C'est compliqué, évidemment, il y a du pluralisme, mais l'opinion, quand on travaille à France 24, comment vous contrôlez ça? Parce que vous avez des journalistes dans le monde entier, et dans 4 langues différentes.
Oui. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que journaliste, c'est pas militant.
Oui.
Voilà. Donc on peut avoir on a tous des opinions politiques, des opinions sur tous les sujets, sociétaux et autres. Mais quand on passe la porte de France 24, on est journaliste et on n'est pas militant. Et quand on a des réseaux sociaux, on a beau dire « cette suite ne reflète pas nécessairement…
» N'engage
que moi et pas mon employeur. Sauf que très souvent, quand on a un compte Twitter, on met quand même le nom de son employeur. Ouais. Donc, il faut gérer aussi ces réseaux sociaux. On a rappelé à nos journalistes, on a une charte de déontologie, que lorsque on dit qu'on est journaliste à France 24, le militantisme n'a pas lieu d'être. Voilà, donc ça a été réexpliqué aux journalistes de notre rédaction. Concernant le cas de cette journaliste que vous avez évoquée, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce tweet est antérieur à la collaboration qu'elle avait avec France 24, que nous l'avons découverte.
Oui.
Donc, que nous avons été évidemment stupéfaits de cette découverte, qu'on s'en est immédiatement séparé, qu'elle travaille pour une société de production, qu'on s'en est immédiatement séparé. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on a 800 journalistes, c'est-à-dire 540 journalistes donc qui sont employés de France 24 et 200 correspondants qui travaillent pour nous, qu'on ne peut pas vérifier, les réseaux sociaux de tout le monde. En revanche, on a rappelé à l'ensemble de nos journalistes qu'ils ne pouvaient pas poster tout et n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux. Voilà. On a même fait un séminaire à Jérusalem, on s'est déplacé pour aller à la rencontre de nos correspondants et leur rappeler les valeurs de France 24 et notre charte de déontologie.
France 24, vous avez connu plusieurs grèves depuis 7 ans, dont la dernière il y a 2 mois avec les salariés qui dénonçaient, je cite, des recrutements en CDI sous pression, l'attribution de nouveaux cycles en toute opacité, des suppressions de vacations, des plannings de travail intenables. Donc c'est une motion de défiance que vous avez contre vous qui a recueilli 56% des voix selon les syndicats. Comment l'avez-vous vécu? On a vu aussi que vous aviez pris des mesures, que la chaîne avait pris des... après cette motion de défense.
Parce qu'ils demandaient des moyens supplémentaires, je crois que c'était 2 millions d'euros.
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que on avait un taux de précarité à France 24 qui était très important, qui était de 30%, que nous avons engagé là plus de 60 pigistes. Donc quand même, c'était une réponse, il me semble, à la hauteur de ce qui avait été demandé. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ces motions de défiance, oui, mais moi, j'ai vécu comme une motion d'inquiétude. Mmh. Parce que, en plus de changer le décor, en plus de changer l'habillage de France 24, en plus de changer la grille des 3 chaînes de France 24 et oui, également de la chaîne hispanophone, on a changé l'organisation du travail, complètement changé l'organisation du travail. Et il est normal que les salariés soient très inquiets, parce que pendant 17 ans, quand vous avez eu une organisation du travail qui n'a pas évolué et que du jour au lendemain, vous expliquez aux journalistes, aux salariés de la chaîne qui vont devoir travailler différemment, sur des horaires fixes, du lundi au jeudi, vendredi, samedi, dimanche,
c'est toujours
très compliqué. Et la question du changement est compliqué. C'est, voilà. Donc il faut accompagner le changement. On a fait beaucoup de réunions de dialogue avec les différentes corps de métier. Nous avons beaucoup travaillé de manière très constructive aussi avec nos élus, mais il faut embarquer plus de 500 journalistes vers le changement. Je peux vous dire que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais on y est arrivé, on va y arriver, et voilà. Et le changement, c'est bien, il faut changer. Il faut de l'énergie, il faut de l'impulsion. Voilà.
Le changement, c'est maintenant, c'est ça. C'est un slogan qui a été utilisé déjà, il me semble.
Je sais bien.
Merci Vanessa, on passe à notre dernière rubrique au suivant. Lundi, nous recevrons la comédienne Judith Chemla, que vous avez peut-être découvert dans Le Sens de la Fête de Toé Dehanoé Nakache, et plus récemment dans D'Argent et de Sang, cette série extraordinaire diffusée sur Canal+. Elle sera à l'affiche de La Peste lundi sur Arte, une série adaptée du roman d'Albert Camus qu'on vous conseille évidemment. Et elle sera également sur ce plateau, Vanessa. Donc si vous avez une question à lui poser, c'est tout de suite. Vous voyez la caméra ici qui est juste à gauche. Elle vous attend. Et Judith Chemla, attend votre question.
Judith Chemla, est-ce que vous pensez que le monde du cinéma a suffisamment soutenu Judith Godrèche?
Excellente question. Et d'actualité en plus. Hein. Voilà, on sent la directrice d'une chaîne info quand même. Merci beaucoup en tout cas Vanessa. Je rappelle que la nouvelle France 24 sera à l'antenne dès lundi. Nouveau contenu, nouvel habillage, nouvelles ambitions. Hein. Évidemment, c'est normal. On vous souhaite évidemment bonne chance et bon vent.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.